Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
C'est toujours une joie d'ouvrir la parole de Dieu avec des frères et sœurs et des amis. Et je vous invite, si vous avez vos Bibles avec vous, ce que j'espère, à les ouvrir au livre de la Genèse, au chapitre 29 et au verset 15. Comme disait quelqu'un, c'est bien d'entendre le vent dans les feuilles. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien ? Dis-moi, quel sera ton salaire ?» Or Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel. Et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Dimanche dernier, nous avons essayé de souligner une des caractéristiques de l'amour. Nous avons essayé de montrer qu'il y a, dans l'amour vrai, une grande générosité, une grande abondance. J'aimerais m'arrêter encore une fois avec vous ce matin sur l'amour. Cet amour aux 100 visages, dont on parle si souvent et qu'on semble connaître si peu. Cet amour qui est l'objet de milliers de chansons, cet amour qui, dit-on, éclate parfois comme un tonnerre et brûle comme un feu. Qui de vous n'a subi le coup de foudre, l'illumination? Qui n'a un jour rencontré, au coin d'une rue, au hasard d'un déplacement, la femme ou l'homme de sa vie? Qui n'a brûlé si fort d'une flamme si ardente que son amour n'a duré qu'un seul été. Chaque année, dans chaque camp de jeunes, naissent de beaux amours éternels qui ne durent que 3 à 6 mois. Et c'est vrai de beaucoup de coups de foudre, mes amis. C'est vrai de beaucoup de ceux qui se sont mariés dans la joie et qui, quelques mois plus tard, divorcent dans les larmes. Qu'est-ce qui manque à leur amour pour qu'il dure? Pourquoi ces amours de rencontre sans lendemain? Pourquoi l'être humain éprouve-t-il avec une telle intensité le besoin d'aimer et d'être aimé? Et pourquoi échoue-t-il si souvent? L'homme moderne serait-il en amour comme en déplacement trop pressé? Oublierait-il alors certaines caractéristiques de l'amour vrai? La Bible, le livre de l'amour vrai, le livre de celui qui est amour par nature, nous rapporte maintes belles histoires d'hommes qui vécurent de beaux amours. La Bible va plus loin encore, bien sûr. Elle nous rapporte l'histoire du plus bel amour jamais vécu. L'histoire de l'amour sans limite, l'histoire de l'amour éternel de Dieu. Pour nous aider à en saisir toute la valeur, j'aimerais m'arrêter avec vous un moment sur la vie de cet homme qui s'appelait Jacob. Nous avons lu, il y a quelques instants, quelques passages se rapportant à cet homme. Jacob, oh, il nous ressemble tellement. Il était menteur, ce Jacob. Menteur et rusé. On se reconnaît dans Jacob, n'est-ce pas? Ami menteur. Menteur et rusé. Mais même les menteurs et les rusés ont besoin d'aimer et d'être aimés. Et ce pauvre Jacob fut un jour accueilli chez Laban, son oncle. Et il ne tarda pas, évidemment, à remarquer la belle Rachel. Elle était belle de taille et belle de figure. Et à une époque où la femme avait certainement moins de liberté qu'aujourd'hui, Laban et Jacob ont fait un marché. Et voilà le marché, 7 ans de travail pour avoir le droit d'épouser ma fille. Je ne pense pas qu'aucune de vous, mesdemoiselles, n'accepte un marché de ce genre. Mais plusieurs remarques s'imposent. La première est la suivante. Pour Jacob, l'objet de son amour est préférable à toute autre chose. Il ne veut pas d'argent, il ne réclame pas de troupeau, il réclame le droit d'épouser celle qu'il aime. Et c'est tout à son honneur. La deuxième chose que j'aimerais souligner, et qui est probablement la plus troublante, c'est que c'est Jacob lui-même qui fixe son salaire. Ce n'est pas le patron, c'est l'ouvrier. Pourtant, il n'était pas syndiqué. Il était seul. Mais c'est lui qui fixe son salaire. Et il dit à Laban, je te servirai 7 années pour avoir le droit d'épouser celle que j'aime, ta fille Rachel. Mais le prix est énorme. Pourquoi a-t-il fixé un prix tellement élevé? Et puis, il y a comme une contradiction dans l'action de Jacob. Comment? Il aime Rachel. Et il demande 7 années pour avoir le droit de l'épouser. Mais mes amis, si c'était aujourd'hui, on dirait à Laban, mais écoute, je l'épouse demain, et puis alors je te servirai un petit peu après, arrangeant les choses comme ça. Mais Jacob dit, je te servirai 7 années, et après tu me donneras ta fille. Il aime Rachel et il se sépare d'elle pour 7 ans. Il aurait certainement pu fixer un prix inférieur et l'épouser plus tôt. Mais il a fixé ce prix-là. Il y a une troisième chose que j'aimerais souligner et qui me paraît aussi très importante. C'est que Jacob ne semble pas s'inquiéter de ce qui pourrait arriver entre-temps. Comment, quand on aime? On a envie d'être ensemble, non? Tout se passe exactement comme si Jacob avait une pleine confiance qu'il épousera un jour celle qu'il aime. Jacob n'est pas pressé, semble-t-il. Il a confiance. Et c'est aussi quelque chose à mettre à son crédit. L'amour de Jacob pour Rachel a finalement 2 caractéristiques. Il me semble que c'est un amour qui travaille. 7 longues années de travail, 7 années de sueur, de veille, 7 longues années pendant lesquelles il ne cesse de penser à celle qu'il aime. C'est un amour qui travaille et c'est aussi un amour patient. Jacob a conscience de la grandeur de l'amour qu'il va vivre. Et il n'hésite pas à lui imposer quelque chose que les jeunes d'aujourd'hui n'aiment pas beaucoup et que je recommande toujours, l'épreuve du temps. Jacob n'hésite pas à imposer à son amour l'épreuve du temps. Cette épreuve que bien peu acceptent aujourd'hui. L'amour de Jacob est patient et persévérant. Oui, mes amis. Il y a un véritable travail de l'amour. il y a aussi une patience et une persévérance dans l'amour vrai. Il vaut la peine de lire ce livre qui se trouve sur la table de librairie, Les Matins de Dieu. Amis qui vous trouvez à l'église du Tabernacle depuis seulement quelques mois ou quelques années, lisez ce livre. Vous y verrez le long travail patient, persévérant, difficile de l'amour pour gagner les Ivoiriens en Jésus-Christ. Il vaut la peine de lire ce livre. L'amour vrai est un amour qui travaille et un amour qui persévère. Et Jacob a patiemment persévéré pour réaliser le souhait de son cœur. Mais si Jacob a fait cela, et si ces 7 années furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait, c'est parce que Jacob est une créature de Dieu qui expérimente à sa manière, imparfaitement sans doute, maladroitement, mais véritablement tout de même, ce que Dieu est en lui-même. Je suis en particulier frappé par cette expression. Et ces 7 années furent pour lui comme quelques jours parce qu'il l'aimait. C'est étrange, cette compression du temps. Je dirais même cette disparition du temps. Est-ce que nous ne touchons pas là à l'éternité? Il y a là comme un avant-goût d'éternité. Cette éternité qui est liée à l'amour. C'est 7 années comme quelques jours, parce qu'on aime. Mais si Jacob a vécu cela, ce que l'Écriture nous révèle de Dieu et de son amour doit être bien plus profond, bien plus beau, et doit être aussi bien plus déterminant pour nous. Pensons un moment ensemble au travail de l'amour de Dieu, à cette inlassable patience de Dieu avec son peuple. Voyez ce peuple qui, après avoir vu la délivrance de l'Égypte, ces 10 plaies qui ont bouleversé toute l'Égypte, ce passage de la mer Rouge qui s'est ouverte sous le vent de Dieu, ce peuple se fait un veau d'or pour l'adorer. Ce peuple se plaint de sa nourriture, la manne que Dieu lui donnait tous les matins. Ce peuple se plaint de ce qu'il faut marcher pour arriver au pays promis. Ce peuple se plaint de l'itinéraire. Il se plaint de ses ennemis. Il se plaint de son chef, Moïse. Il se plaint de ses sacrificateurs. Il se plaint tout le temps. Ce peuple rebelle et contredisant. Mais voyez comment Dieu prend inlassablement soin de ce peuple. Après ces 40 années dans le désert, comment Dieu l'amène dans la terre promise. Mais examinez plus loin l'histoire des juges. Ce temps où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Quelle terrible anarchie à l'époque des juges. Mais quelle délivrance, mes amis. Pensez à Barak, à Samson, à Jephté, à Samuel. Dieu est là et Dieu soutient ce peuple rebelle et méchant. Mais examinez plus loin l'histoire des rois et écoutez ce terrible diagnostic qui jalonne toute l'histoire des rois d'Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. La très grosse majorité des rois d'Israël et de Juda ont été des rois désobéissants, méchants, injustes. Malgré cela, Dieu n'a pas détruit son peuple. Écoutez seulement ce qu'en dit le prophète Ésaïe au chapitre 43 de son livre. Quel beau passage nous trouvons dans les prophètes. Ésaïe 43, verset 22. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste, Tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes. Je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates. Tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. Et pourtant, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et écoutez un peu plus loin au chapitre 44. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi, ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël, que j'ai choisi. Voilà comment Dieu parle de son peuple rebelle et méchant. Mais écoutez encore, ça vaut la peine de s'arrêter encore sur le prophète Jérémie, cet homme qui a passé une partie de sa vie à pleurer sur les péchés de son peuple. Mais quels accents ne trouvons-nous pas dans Jérémie pour exprimer l'amour de Dieu? Verset 3 du chapitre 31. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et regardez au verset 20 du même chapitre. Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Et au temps marqué, au temps choisi par Dieu, le Fils bien-aimé est envoyé vers les hommes. Qui pourrait douter du travail de l'amour de Dieu? Qui pourrait douter de la patience et de la persévérance de l'amour de Dieu pour l'homme? Pour Israël d'abord, bien sûr, mais aussi pour toute l'humanité. Pour les brebis perdues, comme disait Jésus, de la maison d'Israël, mais aussi pour tous ceux qui croiront à la prédication des apôtres du Seigneur. Étrangement, comme Jacob, Dieu ne semble pas s'inquiéter de ce qui pourrait survenir entre le temps où l'homme a commencé à pécher, le temps où Dieu a dit qu'il l'aimait, et le temps où son Fils s'est donné. Dieu ne semble pas s'inquiéter de cette immense période, de ces milliers d'années entre Adam et Jésus. Pourquoi Jésus n'est-il pas venu plus tôt? J'imagine que vous vous êtes posé la question. Pourquoi Jésus n'est-il pas venu plus tôt? Eh bien, mes amis, je crois qu'à la lumière de l'histoire de Jacob, nous pouvons dire, si Jésus n'est pas venu plus tôt, c'est parce que Dieu nous aime. Parce que Jésus est le dernier mot de l'amour de Dieu. Parce que le don de Jésus est le don de soi-même. L'acte d'amour par excellence. Et Dieu, tout au long de l'histoire de son peuple, a multiplié les preuves d'amour jusqu'à se donner en son Fils. Et étrangement, comme Jacob, qui avait estimé à 7 ans le temps de se donner à celle qu'il aimait, Dieu a estimé à quelques milliers d'années le temps de se donner à l'humanité. C'est Dieu qui a fixé le temps, mes amis. La Bible est claire à ce sujet. C'est Dieu qui a fixé le temps. Et mes amis, j'aimerais vous dire ceci. Et ces milliers d'années, furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il nous aimait. Ces milliers d'années de l'histoire furent aux yeux de Dieu comme quelques jours, parce qu'il nous aimait, lui, l'Éternel. Il faut du temps, mes amis, pour donner son amour et pour le donner complètement. Mais le don de l'amour de Dieu n'est pas seulement une question de temps. Dieu, en quelque sorte, comme Jacob, en a fixé lui-même le montant. C'est un prix énorme, incalculable. Ce n'est pas seulement une question de temps, c'est beaucoup plus que cela. C'est le prix du sang. C'est la vie même de son Fils que Dieu nous donne pour que nous puissions un jour être à lui, pour que l'Église puisse être un jour l'épouse de Jésus. Le prix du sang, du seul innocent qui vécut jamais, qui ne dira quel prix énorme Dieu a lui-même fixé pour que nous soyons à lui. Comment pourrait-on douter de l'amour de Dieu? Et je pense à ce passage de l'Apocalypse, au chapitre 19, qui nous parle des noces qui vont venir. Les noces du Fils de Dieu. Apocalypse, chapitre 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Dieu s'est fait homme par amour. Dieu a satisfait sa soif de justice et d'amour. Bien plus. Dieu a satisfait sa nature même, sa sainteté et son amour en se donnant en Jésus. Et Dieu a voulu qu'il en soit ainsi, mes amis, parce que, comme Jacob, l'objet de l'amour de Dieu est préférable pour lui à toute autre chose. Oh, on se pose des questions, n'est-ce pas, mes amis, qu'on se pose des questions sur ce que nous sommes. Après tout, Dieu aurait bien pu détruire l'humanité. Il n'y aurait pas ces problèmes aujourd'hui. Mais Dieu a aimé l'homme et l'humanité tout entière. Oh, on dit, mais Dieu aurait pu créer des robots. Bien sûr, des gens qui lui auraient forcément dit oui. Mais mes amis, Dieu aime les hommes. Et il n'a pas voulu que vous soyez des robots. Il a voulu que vous puissiez lui dire non, mais aussi lui dire oui. Et si nous avons parfois peine à comprendre que Dieu ait pu admettre la tentation et la chute de l'homme, il est certain qu'il ne l'a fait que parce qu'il voulait le triomphe de l'amour. Oui, mes amis, voilà ce que Dieu veut. Dieu est amour, et Dieu veut le triomphe de l'amour, quel qu'en soit le prix. Et cela lui a coûté cher, mes amis. Mais Dieu veut le triomphe de l'amour. Est-ce que nous l'avons compris? Et est-ce que nous le vivons? Un amour aussi vaste qu'un océan, profond comme les mers. Un amour immense. Un amour qui nous entraîne vers cette grande rencontre un jour, où nous le verrons face à face. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et un jour appelés épouses du Fils de Dieu. Amour qui ne se satisfait pas d'un oui obligatoire, mais du oui de l'homme rebelle, du oui de celui qui a été indifférent, méchant, du oui de celui qui a haï son Créateur. Mais amour qui fait chanter le ciel entier. Ô mes amis, parmi ceux que je regarde, je sais bien que plusieurs, beaucoup même, ont été l'occasion de faire chanter le ciel. Mes amis, le jour où vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ, le jour où vous avez décidé d'abandonner vos péchés, eh bien ce jour-là, le ciel a chanté. Et la Bible dit, c'est le Seigneur Jésus qui l'exprime ainsi, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Mes amis, savez-vous que vous avez fait chanter le ciel? Et amis qui ne connaissez pas Jésus, savez-vous que vous pouvez faire chanter le ciel? Aujourd'hui même, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Le jour où l'homme reconnaît son péché devant son Créateur et son Dieu, le jour où il se met à genoux, le jour où il dit « Seigneur, pardon », alors le ciel chante, mes amis. Et j'aimerais entendre le chant du ciel. Mais je sais quelque chose dans mon cœur. C'est que lorsque le ciel chante, mon cœur chante aussi. Et mes amis, ceux qui sont passés par là savent bien que lorsque le ciel s'est mis à chanter, la paix de Dieu les a envahis. Et lorsque vous avez vu tel ou tel de vos amis se tourner vers Dieu, lui demander pardon, alors votre cœur s'est aussi mis à chanter à l'unisson du ciel. Voilà l'amour de Dieu. Alors toi qui m'écoutes et qui n'as pas encore dit oui, devant cet amour immense qui ne veut pas un oui obligatoire, mais le oui du rebelle, le oui de l'indifférent, pourquoi ne dirais-tu pas oui aujourd'hui? Aujourd'hui même, pas tout à l'heure, maintenant, dans le secret de ton cœur, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je veux connaître ton amour et la joie de ton ciel. Et j'aimerais vous citer pour terminer une histoire vraie, bien sûr. J'aime beaucoup les histoires qui nous rapportent ce que Dieu a fait dans la vie des hommes. Celui-là, il s'appelait Issy. Il avait commis un nombre record de crimes, et il était aussi cruel et aussi impitoyable qu'un tigre. Avec une brutalité infernale, il avait assassiné des hommes, des femmes et même des enfants, tous ceux qui le gênaient. Il fut enfin pris. Il était en prison, attendant la mort, lorsqu'il reçut la visite de deux dames canadiennes qui essayèrent de lui parler à travers les barreaux de sa cellule. Il les regarda fixement et refusa de les écouter. Finalement, elles lui donnèrent une Bible dans l'espoir que le livre réussirait là où elles avaient échoué. Leurs désirs furent exaucés au-delà de toute espérance. Il commença à lire et continua sans pouvoir s'arrêter. Lisant toujours, il en arriva au récit de la crucifixion. Ce furent ses paroles, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font, qu'ils le brisèrent. » « Je m'arrêtai, dit-il, frappé au cœur, comme s'il était transpercé par un clou de 15 centimètres. Était-ce l'amour de Christ ? Ou sa compassion, je ne sais comment l'expliquer. Je sais seulement que je crus et que la dureté de mon cœur fut changée. Plus tard, lorsque le geôlier vint chercher le condamné pour le conduire à l'échafaud, il ne trouva pas la brute hargneuse et endurcie qu'il avait connue. C'était un homme souriant et radieux. Ici, l'assassin était né de nouveau. Voilà ce que fait l'amour de Dieu, mes amis, dans le cœur le plus rebelle et le plus dur, dans le cœur le plus indifférent. Pourquoi pas dans le vôtre? Et pourquoi demain? Pourquoi pas aujourd'hui? Dieu vous aime, mes amis. J'atteste ici avec toute la force de ma conviction, avec l'autorité de la parole de Dieu, que Dieu est amour et qu'il attend votre oui. Il ne vous obligera pas à le dire, mais il l'attend. Et mes amis, alors, vous expérimenterez ce que cet assassin a expérimenté, la joie du ciel. La joie du ciel pour vous, hommes.